Mais d'abord, on va aller rejoindre notre chef de bureau politique à l'Assemblée nationale pour Cogeco, Louis Lacroix. Bonjour.
Oui, bonjour Bernard.
Parce que toi, tu as assisté au brefage technique de l'Institut national de santé publique qui a dévoilé cette étude sur le port du masque.
Oui, exactement. En fait, la grande conclusion qu'on va tirer de ça, notamment, là, c'est que l'INSPQ a analysé. En fait, ce qu'ils ont fait, là, leur méthode de travail, c'est de prendre l'ensemble des études disponibles sur les couvre-visages, les masques, etc., dans la littérature internationale. Et ils ont fait une vaste analyse, mis les conclusions ensemble, puis arrivent avec leurs propres conclusions à eux. Et les conclusions sont assez étonnantes. Entre autres choses, le fameux le couvre-visage, c'est-à-dire le masque artisanal, ils sont incapables de dire que c'est efficace. Après avoir analysé l'ensemble des études internationales, là, ils disent, en raison de l'absence ou l'insuffisance de preuves, on ne peut conclure sur l'efficacité ou l'inefficacité du couvre-visage en contexte communautaire. Donc, pour eux, là, il n'y a pas de données scientifiques probantes qui permettent de dire que si tu portes un couvre-visage à l'intérieur, dans des lieux publics, dans la communauté, ça va protéger les autres ou te protéger toi contre la COVID-19. Alors, ils disent, attention, un manque de preuves ne signifie pas une inefficacité. Mais il faut comprendre que les anti-masques vont prendre la balle au rebond, puis ils vont dire, écoutez, depuis le temps qu'on vous le dit, l'INSPQ, qui est un organisme scientifique, vient nous démontrer que c'est pas efficace ou en fait qu'ils sont pas capables de dire que c'est efficace.
Puis là, il faut juste préciser, parce que ça peut devenir mêlant, Louis, l'Institut national de santé publique, c'est différent ça, de la direction de la santé publique de M. Arruda. Là. C'est deux affaires complètement différentes.
C'est deux affaires complètement différentes. Exactement. Les deux relèvent du gouvernement, là, vivent avec les subsides du gouvernement, mais c'est pas lié. Là. C'est pas la santé publique en tant que telle. C'est un organisme qui fait des études et qui fait des recommandations.
Écoute, quand tu as entendu ça, toi, tu as appelé le bureau du premier ministre?
J'ai appelé immédiatement. Ils n'étaient pas au courant que l'INSPQ allait déposer cette étude-là ce matin.
Le bureau de François Legault, premier ministre du Québec, n'était pas au courant? L'INSPQ, c'est pas eux autres qui avaient sorti une étude un vendredi fin d'après-midi là, qui avait créé beaucoup de confusion, puis c'était quasiment excusé de dire la prochaine fois, on va sortir ça on va y mettre la forme pour sortir ça correctement.
Oui, c'était, tu souviens-toi, les projections de décès là, liées à la première vague de COVID-19.
Alors, c'était des chiffres très
alarmants.
Oui, voilà.
Alors, bon, là, il faut donner les autres conclusions de l'étude parce qu'il y a des il y a des précisions à apporter assez importantes là. On a aussi étudié le fameux masque chirurgical. Tu sais, le masque qui est blanc à l'intérieur, bleu à l'extérieur.
Oui.
On en arrive à la conclusion que quand c'est porté à la fois par des personnes saines et des personnes malades ou potentiellement malades, il y a une réduction relative du risque d'infection de 18 à 31 % Et pour eux, c'est une protection qui est importante. Ils considèrent que c'est une bonne protection. Là où ils en arrivent à une conclusion qui est assez étonnante, c'est par rapport au masque chirurgical porté en milieu hospitalier. Dans les milieux de soins, on l'a comparé au N95. On n'est pas capable de vraiment démontrer une plus grande efficacité du N95 par rapport au masque chirurgical. Les données ne sont pas assez probantes pour dire, écoutez, il y a une différence très importante, il faut porter le N95. Ils ne sont pas capables de dire ça. Ils disent, pour l'influenza, c'est confirmé en laboratoire, il n'y a aucune infection de plus avec le masque chirurgical par rapport au N95. Et là, on dit, pour le syndrome d'allure grippale qui s'apparente à la COVID-19, aucune infection de plus, jusqu'à 4 infections de plus par 100 personnes exposées. Donc, autrement dit, là, le N95 et le masque chirurgical, c'est à peu près la même chose.
Quand tu es en milieu hospitalier. Mais quand tu n'es pas en milieu hospitalier, à ce moment-là, le masque chirurgical offre une certaine protection.
Exactement, pour les gens qui le portent pour eux, bien sûr, et aussi en contact avec des gens qui ont la maladie. D'accord. Alors, ça amène une certaine barrière. Là où il y a aussi un manque de données scientifiques, c'est par rapport aux méthodes barrières dans les milieux de travail. On a beaucoup parlé, entre autres, du masque porté par les enseignants dans les écoles. Ils n'ont pas suffisamment de données pour pouvoir dire que c'est efficace, que c'est une mesure qui est efficace pour protéger les gens en milieu de travail. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protection, c'est qu'il manque de données pour arriver à cette conclusion-là. Alors, moi, je pense que pour les anti-masques, c'est du bonbon parce qu'eux vont partir avec ça, évidemment, avec tambour et trompette, puis dire, ben voyez, on vous l'avait dit, on en a la conclusion. Sauf qu'évidemment, il faut prendre cette étude-là avec ce qu'elle comporte, c'est-à-dire un manque de données scientifiques pour arriver à des conclusions. Moi, si je suis au bureau du premier ministre aujourd'hui, je ne suis pas content.
On s'entend là-dessus. Louis Lacroix, chef du bureau politique de Cogeco Nouvelle à l'Assemblée nationale du Québec. Merci, Louis.
Salut.
On va aller rejoindre maintenant la docteure Élisabeth Lajoie, qui est responsable scientifique d'un comité de travail qui a, si je comprends bien, travaillé sur cette étude-là. Docteur Lajoie, bonjour.
Bonjour. Oui, effectivement.
Vous avez travaillé là-dessus. Êtes-vous fière du résultat?
Oui, en ce sens que c'est un travail colossal qui habituellement est fait en 12 à 24 mois et là, on a réussi à le faire en beaucoup moins de mois. Mais ça prend toute une équipe de travail pour y arriver. Okay. Alors oui, on est satisfait, effectivement.
Pourquoi vous sentiez le besoin de faire une étude comme celle-là?
Bien, les connaissances évoluent rapidement. On est face à un nouveau virus qui nous met dans une situation tout à fait exceptionnelle. Et il y a plusieurs recommandations qui sont émises à travers le monde et au Québec pour différents milieux de travail et pour en contexte communautaire aussi, quand on vaque à nos occupations. Et on avait vraiment le besoin d'aller un petit peu plus loin au niveau des méthodes barrières, comme le masque chirurgical, le couvre-visage dont vous avez parlé juste il y a quelques minutes, pour voir exactement où en est la science, qu'est-ce que la science nous apporte comme information et qu'est-ce qui manque aussi pour orienter les prochaines recherches, étant donné qu'on risque d'avoir d'autres vagues de la COVID-19.
OK, mais là, vous concluez, enfin vous écrivez, on ne peut conclure sur l'efficacité ou l'inefficacité du couvre-visage, de la protection oculaire, par exemple les lunettes ou la visière. Là, c'est parce que ça fait une couple de mois là qu'on nous dit que ce serait une bonne idée de porter le masque. C'est même obligatoire de porter le masque dans certains contextes. Et là, vous venez dire, ben le masque, c'est pas sûr qu'il est efficace. Fait que là, vous risquez de créer beaucoup de confusion. Là, est-ce que vous en êtes conscient de ça?
On est conscient que c'est un sujet qui est pas facile et qui est très complexe à traiter. C'est pour ça qu'on voulait faire vraiment une vue d'ensemble, comme le disait le journaliste juste avant moi. L'étude qu'on a faite, c'est une revue systématique de toutes les études sur ce sujet, avec et même une méta-analyse. Donc, on a vraiment pris une approche statistique pour pouvoir quantifier les résultats puis avoir une vue d'ensemble, non pas prendre des études individuelles puis tirer des conclusions à partir de une ou deux études, mais vraiment toutes les études qui ont été publiées sur le sujet.
Fait que là, les gens qui vous écoutent, là, ils se demandent est-ce que le masque fonctionne? Est-ce que le masque est efficace? La réponse courte, c'est on n'est pas sûr.
Pour ce qui est du masque chirurgical, on a des bonnes preuves. Comme c'était dit tout à l'heure, là, qu'à domicile, quand les deux personnes le portent, donc la personne qui a des symptômes, qui est malade ou potentiellement malade, et ses contacts, qu'on a une efficacité. Quand on l'ajoute à l'ensemble des mesures de prévention qui sont déjà recommandées, là, comme la distanciation physique, le lavage des mains, l'étiquette respiratoire. Donc, le masque chirurgical va être efficace dans cette situation-là.
Quand on efficace dans 18 à 31 % des cas.
18, en fait, on observe une réduction de 18 à 31 % du risque. C'est-à-dire que si on a un groupe de 100 personnes qui seraient exposées à la COVID-19, on va en avoir à peu près, c'est pas tout le monde là, qui va attraper la COVID-19. Donc, à partir de d'autres études qui ont été faites dans le contexte, entre autres, du H1N1, on peut estimer qu'il y a à peu près 25 personnes qui pourraient faire l'infection. Mais de ces 25 personnes-là, on en préviendrait 4 à 8 si le port du masque chirurgical est pris en compte.
OK. Mais le simple couvre-visage, lui, vous n'êtes pas capable de dire s'il est efficace ou inefficace. Le foulard ou peu importe,
Le couvre-visage, ben ça c'est un des problèmes, hein, les couvre-visages, ils ont une très grande diversité et ils peuvent avoir une efficacité très différente selon le type de matériau qui est utilisé, le nombre de couches, etc. Mais ce qu'on retrouve dans la littérature que nous on a consulté, c'est qu'on manque de données, on manque d'études à ce sujet-là. Okay. Et vous savez qu'on a, on fait face à un développement quand même assez impressionnant de type de couvre-visage, de matériaux de couvre-visage dans les derniers mois. Okay. Et les études que nous on a regardées ne permettent pas de capter cette évolution-là récente là, qui est survenue.
OK. Puis par ailleurs, les lunettes et la visière, par exemple, qui sont portées par les enseignantes, ça, c'est pas clair non plus si c'est efficace ou inefficace.
Les études dont on dispose, en fait, on a une étude de grande qualité qui a été faite en milieu de soins ou en contexte hospitalier, qui portait essentiellement sur les lunettes de protection qui étaient ajoutées aux autres équipements de protection, donc c'était pas la visière. Cette étude-là semble démontrer une efficacité, mais on n'en a qu'une seule. Donc, pour nous, ça reste une insuffisance de données, bien que ça semble aller dans le sens d'une efficacité. Maintenant, dans les autres contextes de travail en dehors du milieu de soins, pardon, on manque d'études spécifiques, ce qui fait que les groupes qui émettent les recommandations sont obligés de transposer les résultats qu'on observe qui viennent des milieux de soins ou encore qui viennent du milieu domiciliaire pour essayer de recommander les meilleures données. Ils vont devoir s'appuyer aussi sur d'autres types d'études parce que nous, c'est des études qu'on dit épidémiologiques.
Docteur Lajoie, là, je ne dois pas être le seul, là, je vous écoute. Là. Et puis, c'est tellement mêlant, là. Je ne sais pas quelle utilité votre étude va avoir pour le grand public. Peut-être que pour vous, les experts, c'est bien trippant, là. Mais je vais vous dire franchement, là, pour monsieur, madame, tout le monde, là, qui est obligé de gérer des maudites consignes qui n'arrêtent pas de changer d'une fois à l'autre, vous venez de nous mêler, mais solide.
Les consignes sont... Il y a un ensemble de consignes, mais principalement qui ont été recommandées. Ce que nous, on voit avec notre étude, c'est que c'est pas juste un masque qui va faire la différence, c'est le masque avec les autres mesures recommandées. Donc, la distanciation physique, le lavage des mains, l'étiquette respiratoire.
On savait déjà, vous auriez pu émettre un communiqué d'un paragraphe qui disait ça, puis on se serait compris. Mais là, ce que vous venez de faire, là, honnêtement, là, je pense que vous faites pas œuvre utile. Peut-être que dans des milieux scientifiques, là, peut-être que vous trouvez que c'est bien bon ce que vous venez de faire là. Mais je vais vous le dire, là, nous autres qui devons faire la job, là, puis essayons de démêler les différentes consignes, là, qui essayons de comprendre ce que le gouvernement nous envoie comme consigne, qui essayons de relayer ça à la population, là. Je vais vous dire, là. C'est pas bon, ça. Si vous êtes pour sortir des études de même dans un contexte de pandémie, je veux dire, retournez à vos crayons, puis arrivez avec un message plus clair que ça, là. Tout ce que vous faites, là, vous allez nous mêler, là. L'important, c'est que les anti-masques vont puiser là-dedans pour dire, ah ah! Voyez bien!
C'est que pour que l'efficacité soit présente du masque, et entre autres, le masque chirurgical qu'on a observé, il faut qu'il soit bien porté, il faut qu'il soit porté. Dans les études qu'on a regardées, il n'était pas porté par tout le monde. C'est à peu près 50% des participants dans les études où on le notait qu'il portait. Ce qui veut dire que si on était plus nombreux à le porter, l'efficacité serait encore plus grande.
Oui, mais ça, docteur Lajoie, on le savait, ça, là. On le sait, là, que plus on est nombreux à porter le masque, mieux ça va être, là.
Ben, au moins, à partir de maintenant, on sait vraiment où la science se situe.
Ben là, on
a étayé les données.
On pensait que la santé publique, c'était la science. Docteur Lajoie, la santé publique, c'est pas la science. Quand Arruda, il parle, c'est pas la science. Il passe le temps à nous dire qu'ils sont appuyés sur la science. Là, on a deux sciences.
En fait, ce que nous, on a fait, c'est vraiment d'étayer les données de la littérature pour les méthodes barrières.
Oui, c'est ça. Okay.
Ce que les groupes comme Dr Arruda et d'autres groupes à l'INSPQ qui se penchent d'ailleurs sur le couvre-visage présentement, on a un groupe qui se penche spécifiquement sur le couvre-visage pour améliorer puis bonifier les recommandations qui vont être faites. Ce que ces groupes-là doivent faire, c'est prendre en considération où la science en est rendue, donc ce que nous, on apporte aujourd'hui, ce que moi, je vous présente. Mais
vous auriez dû vous asseoir, honnêtement, là, c'est tellement touché, cette affaire-là. Vous auriez dû vous asseoir avec la santé publique, avec Arruda. Je comprends que vous êtes indépendant, mais vous vous asseyez avec la santé publique, puis vous arrivez avec un message. Vous vous entendez sur un message. Mais là, on ne peut pas se permettre, dans une société de 8 millions de personnes, d'avoir deux institutions, deux sciences qui nous parlent, qui nous disent pas exactement la même affaire, dans un contexte où c'est mêlant, parce que les consignes changent constamment, parce que le maudit virus n'arrête pas de changer de région puis de comportement. Fait que là, parlez-vous les scientifiques, puis arrivez-nous avec un message clair, un message, pas deux. Docteur Élisabeth Lajoie, merci pour le travail. Merci, à la prochaine.
Regardez l'ensemble des mesures.
Docteur Lajoie, j'ai dit ce que j'avais à dire, vous avez dit ce que vous avez à dire. Merci beaucoup pour l'entrevue. On s'en va à la pause. Luc réagit au retour. Bon, Luc, je t'écoute, mon homme.
Bernard, est-ce que c'est vrai que le premier ministre n'était pas au courant de ça?
Absolument.
Est-ce que ça a du bon sens? Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Écoute, je viens de regarder la composition du conseil d'administration de l'INSPQ. Il y a le docteur Arruda, qui est un des membres du conseil, il devait être au courant. C'est de la misère à comprendre. Pour ce qui est des autres commentaires que j'aurais pu faire, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je veux dire, à un moment donné, comment créer plus de confusion? Franchement, comment alimenter les anti-masques, puis les libertés, puis tout ça? Je sais pas qu'est-ce qu'il a repris, puis je veux dire, la docteur, la médecin avec qui tu parlais, elle avait pas des ben bons arguments, là. C'était des arguments pour eux-mêmes. T'avais raison. Ils se sont fait plaisir, là, les scientifiques. Hey, nous autres, on va étudier ça. Ah, ouais. Mais la science dans le monde entier démontre que c'est la meilleure façon à l'heure actuelle. Il y a même un des grands experts aux États-Unis la semaine dernière qui a dit que c'est peut-être même plus efficace que pourrait l'être un vaccin. J'avais trouvé la comparaison un peu difficile, mais néanmoins, puisqu'on sait que ça vient sous forme d'aérosol, que ça vient par gouttelettes de gens qui toussent ou qui parlent ou qui chantent, je peux pas croire qu'un masque n'a rien à voir avec la protection, en tout cas.
Mais moi, ce que je comprends pas, Luc, c'est la direction de l'INSPQ, là. Mais il doit y avoir quelqu'un qui a un minimum de sens commun. Tu regardes cette affaire-là, tu dis, si on envoie ça dans circulation, ça va être complètement contre-productif. Sais-tu quoi? On va attendre, on va la retravailler, on va s'asseoir avec Arruda. On peut pas envoyer ça de même, maintenant. On va juste aider les adversaires du masque.
Mais il faudrait parler à Christian Dubé, parce que moi, je viens de regarder aussi l'organigramme de l'INSPQ. Et ça relève directement du ministre. Ben, je comprends l'indépendance, mais quand même, c'est le ministre qui est responsable.
Okay.
Il y a pas de gens, les gens n'existent pas dans l'atmosphère comme si de rien n'était.
Luc, on se reparle un peu plus tard. Je vais aller aux appels. Jean, d'abord, qui nous appelle. Bonjour, Jean.
Oui, salut, Bernard.
On vous écoute.
Écoute, j'étais excellent l'entrevue que tu as faite, puis tu as bien fait de les ramasser. Ça n'a même pas de bon sens. Écoute, moi, là, je veux juste dire, c'est la première fois que j'appelle, là, puis parce que je trouvais que c'était important que je te dise. Il faut pas laisser un once, un petit brin d'opportunité aux gens qui sont de mauvaise foi, qui vont commencer à utiliser cet argument-là pour dire on portera pas de masque, mais des études l'ont prouvé, ci puis ça. Alors ça n'a aucun bon sens. Ça a été fait d'une façon là, vraiment irresponsable. Puis là, regardez, là, ça va partir tout un débat que malheureusement, je trouve très, très malheureux parce que les gens sont écœurés de la COVID, ça, je comprends, là. Puis on n'a pas besoin de ça du tout pour l'instant. C'est juste de porter le masque, d'attendre, le foulard, n'importe quoi, mais mettre quoi qui va t'empêcher de picher des gouttelettes. D'attendre, c'est égal, on va garder ça simple au plus simple possible.
Oui, c'est ça, exactement, Jean. Gardons ça simple. Je suis tellement d'accord avec vous. Il faut que je vous arrête, Jean, parce qu'il faut que j'aille à Sylvie si je veux prendre une couple d'autres appels. Bonjour, Sylvie.
Oui, bonjour, Monsieur Drainville. Je suis vraiment honorée de vous parler. C'est la première fois que j'appelle à une ligne ouverte. Là, je suis un petit peu nerveuse.
Non, ça va très bien. Continuez, ça va bien.
Merci. Et Monsieur Lavoie, bonjour aussi. Je veux vous dire que je suis un petit peu pas mal à bout parce que on joue avec nos nerfs. Je ne sais pas c'est qui s'amuse à lancer, à lâcher des bombes comme ça. L'INS, c'est quoi le nom de ce foutu organisme?
INSPQ, Institut national de santé publique.
Est-ce que c'est financé avec l'argent des travailleurs, ça?
Ah, oui.
Avec
l'argent
de nos taxes?
100%.
Mais moi, je ne comprends pas, Monsieur Drainville, il y a le gouvernement, il y a les ministres qui travaillent dans une direction pour donner un air d'aller à tout ça. Puis ça commençait à prendre forme, tout ça. Et il y a cet organisme-là qui lâche une bombe sans même que le premier ministre en ait entendu parler. Ça me dépasse.
Sylvie, merci pour l'appel. Je pense que vous résumez l'opinion que je lis dans plusieurs courriels, très, très, très nombreux courriels et très, très, très textos. Vous êtes nombreux à dire que ça n'a pas de sacré bon sens. Je ne vais pas répéter. Ce que Sylvie et Jean ont dit reflète l'opinion de la vaste majorité de vous qui m'écrivez présentement par texto ou par courriel. On s'en va à la pause. Au retour, on vous parle de cette opération policière qui est en cours en lien avec la tentative d'empoisonner Donald Trump avec un poison très, très puissant.